Amen. Amen. Bon matin. Vous m'entendez bien? Oui, le micro est bien ajusté. C'est bon d'être parmi vous ce matin. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom est Danny Desrosiers. Je suis un des anciens à l'église de Rimouski. Et de temps en temps, on m'invite à venir apporter la parole. Donc, je suis ici. Et ce matin, j'ai remarqué que vous aviez de l'air pas mal plus heureux d'habitude de m'accueillir. J'assume, c'est parce que j'ai emmené Francine avec moi. Là. D'habitude, il me semble que votre accueil n'est pas si chaleureux, là, mais il faudra que je t'emmène plus souvent. Vous savez que je plaisante, hein? Parlant de plaisanterie, pour ceux qui se poseraient des questions par rapport à mes yeux, j'ai un petit peu des pocs et des points de suture. C'est parce que j'ai eu une opération aux yeux. J'avais les paupières lourdes. Rassurez-vous, ce n'était pas pour m'embellir, parce que ceux qui me connaissent, ils savent que ce n'est pas possible de m'embellir. Là. Il manque pas d'humilité, ce gars-là. C'était vraiment un problème médical. J'avais les paupières lourdes. J'avais de la misère à voir le ciel. C'est rendu, il fallait que je me lève la tête pour voir le ciel. Fait que là, maintenant, mes paupières sont plus ouvertes. Bon, amen. C'est bon d'être avec vous ce matin. Et ce matin, on va regarder un passage dans la Bible que vous connaissez tous. Et on va parler d'une personne qui, je l'espère, vous connaissez tous, qui vous habite tous. On va parler du Saint-Esprit. Et avant d'aller là, c'est bon de voir des gens de Rimouski qui m'accompagnent le matin. Ils ne sont pas venus pour moi, ils sont venus pour M. Cyr et Mme Cyr, Pascal et sa famille. Donc, c'est plaisant de vous avoir ici. Et c'est drôle parce que ceux qui ne savent pas, 30 quelques années passées, ben moi et Mylène, on était dans la même église. Et aujourd'hui, on se retrouve, 30 quelques années plus tard, dans la même église à Rimouski. Puis, il y a même encore. Fait qu'il faut croire que j'étais pas si pire à l'époque. Mais c'est bon de vous voir ici. Acte 1, 8. Vous êtes de bonne humeur? Acte 1, 8 nous dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Seigneur, merci pour ta parole inspirée de ton esprit qui nous parle encore aujourd'hui en 2024. Elle est encore aussi tranchante, pénétrante jusqu'à atteindre jointure et moelle au plus profond de l'être, âme et esprit. Et Seigneur, elle bénit notre cœur. Elle puisse, Seigneur, toucher les cœurs ce matin, qu'on puisse ressortir de ce lieu, encouragé, fortifié, à cause de ta présence parmi nous, Seigneur. Et tous ont dit, amen. Donc, ce matin, je vais adresser la personne, ou parler de la personne du Saint-Esprit. Et si je veux être totalement transparent, il faut que je vous avoue que dans les dernières années, j'ai réalisé que je n'étais pas porté peut-être suffisamment d'attention à la troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Puis j'ai passé du temps à tenter de comprendre l'origine de toute chose. J'ai passé beaucoup de temps à affirmer ma conviction par rapport à l'origine des Écritures, l'inspiration des Écritures, la fiabilité des Écritures. J'ai passé beaucoup de temps à examiner l'œuvre de Christ à la croix et combien précieux que cette œuvre de rédemption-là est pour affermir ma foi. J'ai passé du temps à examiner les évidences historiques qui supportent la résurrection de Jésus, parce que oui, c'est un événement historique, la résurrection de Jésus. Et à cela, vous pouvez dire « Amen ». J'ai passé du temps à soupirer après son retour imminent dans les airs. Je l'attends encore de tout mon cœur. L'attendez-vous encore de tout votre cœur, le retour glorieux de Jésus-Christ dans son royaume à venir? Mais récemment, j'ai réalisé que j'ai peut-être pas passé autant de temps que ça à prendre conscience ou à m'attarder sur l'importance du Saint-Esprit, du rôle que le Saint-Esprit a dans le monde, le rôle que le Saint-Esprit a dans l'Église, dans la vie des croyants, dans ma vie, dans ta vie. Puis sans vouloir me donner d'excuses, j'ai voulu, ou bien me victimiser par rapport à ça, j'ai voulu comprendre pourquoi. Pourquoi? C'est quoi les raisons qui ont fait que je m'intéressais moins ou je portais moins d'attention peut-être à lire ou à rechercher sur le Saint-Esprit? En fouillant dans mon passé, dans les expériences que j'ai vécues, j'ai peut-être identifié qu'il y avait des raisons. Puis je pense qu'une des raisons majeures, c'est probablement la mauvaise représentation que parfois on fait du Saint-Esprit, que parfois certains prédicateurs, la façon dont ils nous présentent le Saint-Esprit. Si on regarde à des chants qu'on chante de façon régulière ou qu'on chantait dans le temps, « Quelle est donc cette puissance qui me fait trembler et parler en d'autres langues? » Qui nous fait tomber, qui nous fait hurler, qui nous fait shaker, comme une puissance, on dirait, qui fait comme des choses bizarres, comme des classes de croyants, comme une puissance qui, vraiment, dans mon histoire, a peut-être même plus causé de division que d'unité. Et si on considère juste Actes 1-8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, on pourrait penser que, en fait, l'Esprit n'est qu'une puissance, une force qui vient de Dieu, une bénédiction qu'il nous accorde, un mode d'opération de la part de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que les modalistes qu'on appelle, ou les unitariens, c'est comme ça qu'ils présentent le Saint-Esprit. C'est juste un mode d'opération. De temps en temps, il se présente comme le Fils, comme le Saint-Esprit, mais c'est un seul Dieu, alors que nous croyons que c'est un Dieu en trois personnes distinctes. Certainement, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Mais il est beaucoup plus que ça. Il est également une personne, la personne du Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, il est une personne qui a de la puissance, mais il n'est pas seulement qu'une puissance. Et surtout, il n'est pas qu'une puissance au service de l'homme. Mais il est une personne qui manifeste sa puissance au service du plan de Dieu à travers des hommes. Ah! Il est une personne qui manifeste sa puissance pour glorifier Jésus dans nos cœurs, nous convaincre de péché, de justice, de jugement, afin que l'homme vienne à la repentance, que cette puissance vienne, habite en nous, nous bouleverse, nous transforme, fait de nous de nouvelles créatures qui sont nées non pas de volonté d'homme, mais de la volonté de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, au service de Dieu, et non des créatures qui ont Dieu ou son esprit à leur service. Vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. Dans le texte qu'on lit dans Actes 1-8, le mot « puissance » vient du mot grec « dynamus » qui veut dire « puissance »,« pouvoir ». Et la personne du Saint-Esprit, elle est puissante. Il a de la puissance qui nous rend capables de vivre selon les préceptes de Dieu. Sans lui, c'est impossible. Et Ézéchiel 36, verset 27 nous dit cela. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » sans son esprit, c'est impossible. Il a la puissance qui nous fortifie dans notre être intérieur. Dans Éphésiens 3:16, nous dit cela, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Le Saint-Esprit, il est la puissance qui nous libère. Il a la puissance qui nous libère, nous dit 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il est la puissance de la résurrection, nous dit Romains 8, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Saint-Esprit qui habite en nous. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Notre corps vieillit. Notre corps dépérit. Notre corps mourra. Mais surtout, notre corps ressuscitera dans la gloire par la même puissance qui a ressuscité Jésus le Christ, son Saint-Esprit. Et nous serons éternellement avec lui à cause de son Esprit qui est venu nous régénérer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a déclaré dans le premier chapitre aux Philippiens, au verset 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Ah oui, on est attaché à la terre. On est attaché à la terre, on ne veut pas mourir. Mais soyons assurés que parce que la personne du Saint-Esprit habite en nous. Quitter ce monde, c'est le meilleur. Trop souvent, le Saint-Esprit est réduit à une puissance. Le Saint-Esprit est réduit à un objet utilitaire. Quand j'ai besoin, je le prends. Quand mon besoin est comblé, je le mets sur la tablette. C'est comme si je vous disais que la semaine prochaine, vous recevrez une beauté. Vous arrivez à l'église, vous asseyez, vous regardez à la porte, vous allez dire, « Voyons, quand est-ce Dany arrive, là? » Finalement, Francine rentre. Ah, ben là, alors là, vous recevez une beauté. Mais Francine, c'est beaucoup plus qu'une beauté. Elle est une personne à part entière. Une personne qui a de la valeur. Elle est intelligente. Elle est droite. Elle est intègre. Elle est juste. Et surtout, elle a beaucoup de goût. Vous n'avez pas l'air d'accord? Elle cuisine bien. Elle est propre. En un mot, le Saint-Esprit a fait une bonne job de nous unir. Ou encore, si je vous disais, la semaine prochaine, vous recevrez une parole. Là, je vais taquiner quelqu'un dans la salle. Là. J'espère que vous allez me pardonner. Là. Puis, oups, Roger rentre. Alors, vous savez que si Roger rentre, Vous ne recevrez pas une parole, vous allez recevoir des paroles. Tu sais que je t'aime, Roger, c'est pour ça que je te taquine. Roger parle, mais il fait beaucoup plus que ça. Il est accueillant, il est souriant, il est fidèle, il est patenteux, il est ingénieux, mais surtout, il aime Dieu. C'est une personne à part entière. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit est une manifestation de Dieu dans nos cœurs, mais il n'est plus que ça, il est une personne à part entière. En fait, il est la troisième personne de la Trinité. Pourquoi peut-on affirmer une telle chose? Bien, c'est parce que c'est comme ça que la parole de Dieu nous le révèle. Elle nous révèle que le Saint-Esprit, c'est une personne. Pourquoi? Parce que, un, le Saint-Esprit agit comme une personne. J'aimerais vous énumérer quelques-unes des actions qu'on lui attribue au Saint-Esprit et qui ne peuvent pas être le résultat vraiment ou l'expression d'un pouvoir ou d'une force. Un, le Saint-Esprit, il demeure parmi les croyants. Une force, ça ne demeure pas, ça passe. Mais une personne, ça demeure. Puis des fois, ça demeure un petit brin trop longtemps. Tu sais, la visite, des fois, là. C'est plaisant d'avoir arrivé, c'est plaisant d'avoir parti. Hein? Mais le Saint-Esprit demeure. Et lui, on ne s'entend pas. Il demeure avec les croyants. Jean 14, 17 nous dit, « C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il demeure en vous depuis la nouvelle naissance. Il y a un avant puis il y a un après. Avant, je voyais rien, maintenant je vois. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, on recouvre la vue. Avant, je ne comprenais pas les choses de Dieu, maintenant je les perçois, je les ressens, je les aime, je les désire. Pourquoi? Parce que la personne du Saint-Esprit habite en moi. De plus, il est une personne car il a une demeure. Tu es cette demeure. Nous sommes cette demeure. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui vous a été donné par Dieu? Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Une puissance a un impact, a un effet pour un temps, mais une personne, ça nous accompagne. Ça habite avec nous. Et pour ce qui est de l'esprit, il habite en nous. Ça nous montre des choses pour le long terme, le très long terme. En fait, ça nous montre des choses pour l'éternité. En fait, il me conduit vers l'éternité, dans la présence de la Sainte Trinité. Et lorsqu'on loue le Seigneur, nous rentrons dans la présence de Dieu. Les anges nous accompagnent. Ils nous accompagnent avec nous, le Saint-Esprit, dans cette présence. C'est lui qui met en nous cette louange pour le louer, pour le glorifier. On aime ça, on est bien parce qu'on est là où ce qu'on devrait être dans la présence de Dieu. La personne du Saint-Esprit, elle marche avec moi. Elle marche avec moi quand je suis sur la montagne. Elle marche avec moi quand je suis dans la vallée. Toujours, son esprit m'accompagne, même quand je le file pas. Tu as des journées comme ça, yuck. Tu as des jours comme moi, là, vous avez la face comme si vous veniez juste de sucer un citron. Là. Ça va pas, là. L'Esprit de Dieu est en moi. Il me conduit dans toute la vérité, afin que rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, rien, 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 parce que le Saint-Esprit de Dieu nous conduit dans toute la vérité. Il enseigne, il rappelle deuxièmement. Jean 14, 26 nous dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il m'enseigne à propos de Jésus, à propos de sa parole. Je la lis, tantôt elle me parle d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite en moi est au courant de ma situation. Et il me révèle sa parole tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour l'adapter à mon quotidien. Il m'enseigne comment vivre, comment aimer, comment pardonner, comment prier. Il m'enseigne le sentier sur lequel je dois marcher. Et si je fais un faux pas, le système d'alarme, ma conscience, mon battement de cœur se met à aller à 100 000 à l'heure. Va pas là, fais pas ça. Il m'enseigne sur la vie présente, comment y naviguer. Il m'enseigne que je ne suis qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis ensuite disparaît, mais je ne disparais pas pour l'éternité, parce que lorsque je disparais de cette terre, à cause du Saint-Esprit qui m'habite, j'apparais dans la gloire de Dieu. Cette vie, la mort, n'est qu'une transition. On change de local. On passe d'un local à un autre, d'un local charnel à un local éternel. Il m'enseigne sur l'avenir, la vie à venir. Quand je disparaîtrai de cette dimension, grâce à son esprit en moi, j'apparaîtrai dans une autre dimension, la dimension là où Dieu et ses anges habitent. La dimension de la gloire éternelle. Jean 14, 1 nous dit cela, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et pendant tout ce temps-là, son Saint-Esprit nous accompagne. Pendant mon pèlerinage sur cette terre, il me guide, il me parle, il m'enseigne, il me convainc. En d'autres mots, il me témoigne. Il me témoigne, mon troisième point, l'Esprit de Dieu témoigne à moi, Jean 15, 26, et à vous. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, il rendra témoignage de Jésus. La route de la sanctification, c'est long, c'est ardu, ça dure toute une vie, ça nous réserve des hauts, des bas, des victoires, des défaites. Mais pour nous encourager, l'Esprit de Dieu vient, pendant notre pèlerinage, nous rassure qu'on est enfant de Dieu. Pas parce que je le mérite, ni à cause de mes efforts, mais par pure grâce. Et cette grâce, c'est Dieu qui a envoyé son Fils afin qu'il paye le prix de mon péché à ma place. Constamment, son Esprit nous témoigne de Jésus, notre substitut. Je voulais voir si vous vous rappelez mon dernier message. Constamment, son esprit nous témoigne de son œuvre rédemptrice, que la dette est payée au complet. Et ce qu'il y a de plus merveilleux là-dedans, on va dire en bon chiac, c'est qu'il y a à qui je devais de l'argent, a paid off la dette pour moi. C'est nice! Moi, j'ai été banquier toute ma vie, puis jamais la banque à payer la dette pour quelqu'un qui nous devait de l'argent. Non, c'est pas de même que ça marche. Mais avec Dieu, c'est de même que ça marche. Celui à qui je devais a payé pour moi. C'est nice. Constamment, son esprit nous témoigne de la véracité de la résurrection, et cette résurrection, elle est garante de notre résurrection. Constamment, son esprit me rappelle le retour prochain de Jésus dans toute sa gloire. Cette conviction est parfois plus forte, plus évidente, parfois plus faible, moins détectable. On vit parfois des doutes et même des creux profonds. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre-là? Pourquoi je suis né au monde? Qui suis-je aux yeux de Dieu? Il y a tiens que moi qui se pose ces questions-là. Cette vie, ça vaut-tu vraiment la peine d'être vécue? Pourquoi tant de souffrances? Mais même dans les creux les plus profonds, la personne du Saint-Esprit est en nous. Et elle nous témoigne de la véracité de l'Évangile. Il rend continuellement témoignage à mon esprit et me murmure doucement au fond de mon cœur, « Tu es enfant de Dieu, tu m'appartiens, je t'ai payé, je t'ai racheté à un grand prix. Ce que tu crois, même si c'est faible, est bien vrai et le témoignage du Saint-Esprit fortifie cette foi, maintient cette foi, soutient cette foi. » Quatrièmement, la personne du Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Jean 16, 13 nous dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans tous les mensonges. » Dans toute la vérité. Nous vivons dans un monde où il y a une pénurie de vérité. La vérité est devenue une denrée rare. Ça me fait de la peine de le dire, mais parfois même dans l'Église. Pas ici, évidemment. Ni à Rimouski. Non. Pourquoi? Eh bien, parce que le monde s'est livré au père du mensonge. On ne peut pas rejeter Jésus, on ne peut pas mettre Jésus à la porte de notre société, de nos écoles, de toutes, et s'attendre à ce que la vérité demeure. Parce que la vérité, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Et si on met la personne de Jésus en dehors, la vérité sort avec. Qu'est-ce qui vient le remplacer? Le mensonge. Il utilise la tactique, l'ennemi utilise la tactique, la tromperie pour séparer les gens de leur Père céleste. Et vous connaissez son mensonge. Dieu, c'est bien dit ça? C'est bien vrai ce qu'il dit? Il n'y a pas de Dieu, voyons. Fais-le, toi, la science. Il dit, Dieu ne se soucie pas de toi. Il dit, on ne peut pas faire confiance à la Bible. Elle est écrite par les hommes. Si je te disais ça a été écrit par un oiseau, tu me créerais-tu plus? Il dit, vos œuvres bonnes, ça va t'amener au ciel, vous n'aurez pas. L'apôtre Paul nous dit que Satan se fait passer pour un ange de lumière, de sorte que ce qu'il dit et fait sonne bien, semble raisonnable, mais en fait, ce n'est qu'une fausse apparence. Souvent, il utilise des personnes d'influence, insouciantes, pour faire avancer ses mensonges, comme dans le cas des fausses religions, des cultes, et même dans le cas de certains. Vous connaissez le mot suivant. Et l'arme la plus puissante pour contrecarrer le mensonge, c'est la vérité. Et la chose que nous devrions poursuivre avec acharnement, la chose que nous devrions chercher de tout notre cœur, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas les rêves de notre cœur. Ce n'est pas ni l'or ni l'argent. La chose que l'on devrait chérir et poursuivre plus que toute autre chose, c'est la vérité. Parce que là où est la vérité, là est la liberté. Libre de l'ennemi, libre du mensonge, libre des pièges et des trappes, libre dans notre conscience, la vérité libère. Et la quête de notre vie, la quête de cette Église, la quête de chaque enfant de Dieu devrait être d'être à la poursuite de la vérité. Parce que la vérité incarnée, c'est Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu pour nous faire shaker seulement, pour nous faire rire, pour nous servir, mais il est venu pour nous révéler la vérité, pour nous conduire dans toute la vérité et pour glorifier la personne de Jésus-Christ qui est la vérité. Être chrétien, ça n'a rien à voir avec la religion. Être chrétien, c'est être à la poursuite de la vérité. On doit être des gens de vérité qui marchent dans la vérité. À la poursuite de la vérité pour répandre la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et comment le Saint-Esprit peut-il nous conduire dans toutes les vérités? Par les Écritures. Il a inspiré, mon point numéro 5, la parole. Acte 1, 16 nous dit, « Homme, frère, il fallait que s'accomplisse, Acte 1, 16, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. 2 Pierre 1:21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et parce que les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit, jamais le Saint-Esprit va nous donner une direction pour nos vies qui est contraire aux Écritures. Peu importe ce que la société approuve ou désapprouve. Peu importe ce que l'on nous recommande, ce que ton conseiller te recommande, peu importe ce que la culture nous dicte, peu importe comment qu'on file, comment qu'on sent. L'obéissance à Dieu, ça passe par la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit de Dieu. Me fait de la peine de vous dire ça, mais Dieu m'a montré, ça passe comme serré dans ma gorge des fois. God told me to tell you. Whoop-a-lay. J'ai de la misère avec ça, moi. Il me semble pourtant que j'étais à la recherche de Dieu, puis je l'écoute, puis si Dieu avait quelque chose à me dire, je pense qu'il me l'aurait dit. Que quelqu'un me prodigue un conseil, alors je vais le prendre avec plaisir. Que quelqu'un me cite un verset, je dis « Amen à ça ». Mais God told me to tell you, oh, polite. Je suis bien à l'aise d'être sceptique. Si quelqu'un prononce une parole qui s'adresse à moi, je pense que le Saint-Esprit va prendre soin de me convaincre que c'est lui qui parle à travers de la bouche de la personne qui me parle. Et récemment, j'ai vu une petite expérience par rapport à ça. À notre église, à Rimouski, il y a un monsieur qui dit, « Danny, viens ici, j'ai de quoi te donner. » OK. Donne ça. Belle plaque. Il dit, « Tiens, j'ai fait ça pour toi. » Ah, oh, merci. Il n'a pas dit, « Le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je te donne ça. » Il m'a juste dit, « J'ai une plaque pour toi, tiens. » Ah, j'ai dit, « C'est toi qui as fait ça? » Il dit, « Ouais, c'est moi qui l'ai gravé. » Puis il dit, « En plus de ça, il dit, c'est même moi qui ai conçu la machine pour le graver. » Ah, oui. Ouais, tu fais penser à quelqu'un que je connais, t'es patenteux. Puis sur cette plaque-là, il y avait un verset. Ça disait tout simplement, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Ça, si vous vous rappelez, là, c'est quand Jésus s'est sauvé, là, puis il était au temple. Ses parents le cherchaient, ils sont allés. Puis ils ont dit, « Hey, tu vas là, toi, on t'a perdu, on t'inquiète, là, on ne savait pas où c'était. » « Mom, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » Puis moi, quand j'ai lu ce verset-là, il n'y avait pas besoin de me dire rien, comprends-tu, là? Il n'y avait pas besoin de dire « Dieu me dit que, Dieu me montrait que ». Moi, je savais là, que ce verset-là, là, il était pour moi. Parce qu'en dedans de moi, là, j'avais un désir de prendre un break. Comprends-tu ça, là? Je voulais prendre une pause. Ça fait 5 ans que j'étais sur le comité de diacre, je veux prendre une pause. Je ne veux plus rien faire. Là. Pour un bout, là, je vais prendre un break. Là. Puis là, on me demandait si je voulais devenir ancien à l'Église. J'étais hésitant par rapport à tout ça, puis encore m'impliquer, puis c'est encore du temps, puis encore aller prêcher la parole, puis tout ça. Puis, c'est, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, c'est ça. Mais quand j'ai lu ce verset, « Il faut que tu t'occupes des affaires de ton père », ça m'a parlé. Fait qu'en bas, dans mon sous-sol, on descend de marche, puis je l'ai mis juste là. Fait que chaque matin, quand je descends dans mon sous-sol, « Il faut que je m'occupe des affaires de mon père ». Ça m'a parlé. C'est comme ça que le Saint-Esprit parle, par sa parole, sans que personne ait besoin d'en prendre le crédit. Parce que le crédit, il revient au Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Acte 13:2 nous dit cela. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et une chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que tous nous avons un appel. Et le plus grand des appels, c'est d'être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Et de mourir à soi-même, afin que ce ne soit plus moi qui vis, mais que ce soit Christ qui vit en moi, et que ma vie serve à réconcilier d'autres personnes avec Dieu. Et je constate que malheureusement, je vais appeler ça la religion, a fait de l'appel de Dieu quelque chose de mystique, de boucaneux, de spirituel, de spécial. On finit par faire des classes d'appelés. Oui, selon Éphésiens 4, 11 et 12, et je vais le lire, et je ne dénigre pas cela, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Mais j'aimerais vous dire qu'il a également... Je dis bien également donner les uns comme concierges, les autres comme policiers, les autres comme administrateurs, des gestionnaires pour répandre la parole de Dieu dans la société et démontrer une éthique de travail chrétienne, digne de notre Dieu, les uns comme les enseignants de l'école du dimanche, les autres comme des concierges, les autres comme des chantres, tous appelés par le même esprit, tous moins du Saint-Esprit pour une tâche particulière selon leurs dons et leurs talents à eux. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir Christ là où il nous appelle selon nos dons et nos talents. Et à cela, je devrais entendre un hourra et un amen. Celui qui appelle, c'est le Saint-Esprit. Et cet appel, elle est confirmée par les autres. L'autoproclamation n'est pas de Dieu. L'autoproclamation, c'est de l'orgueil. Mais l'appel du Saint-Esprit et la validation par les pères, c'est de l'humilité. Le Saint-Esprit est une personne parce qu'il agit comme une personne. Deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il possède les attributs essentiels d'une personne. Et vous savez que je pourrais en avoir pour encore bien des jours, mais je vais me limiter ce matin parce que je comprends qu'on est limité par le temps, mais je vais vous résumer ceci. L'Esprit est doté d'une volonté. C'est une personne parce qu'il est doté d'une volonté. Une puissance, ça n'a pas de volonté. Il accorde ses dons à chacun comme il veut. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Et j'ai beaucoup aimé la parole qu'on a entendue de notre frère ce matin. Une parole qui venait du Saint-Esprit. À un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et merci à notre sœur aussi pour sa parole ce matin. Deuxièmement, l'esprit est doté d'une pensée. Romains 8, 27 nous dit, « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. » L'esprit est une personne parce qu'il est doté de connaissances. 1 Corinthiens 2, 10 et 11 nous dit cela. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car ils sondent tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Réalisons-nous ce matin qu'en nous habite celui qui a accès aux choses profondes de Dieu et qu'il peut nous révéler ces choses-là, non pas pour notre gloire, mais pour notre fortification et pour notre outillage à témoigner aux autres de sa grandeur. Quatrièmement, l'esprit est doté d'une langue. J'ai jamais vu une puissance avec une langue, moi, vous autres. 1 Corinthiens 2, 13, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Cinquièmement, l'Esprit est doté d'amour. Romains 15, 30 nous dit cela. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. En conclusion, le Saint-Esprit est une personne, car il agit comme une personne. Le Saint-Esprit demeure parmi nous. Il enseigne, il nous rappelle qu'on puisse lui demander, « Seigneur, enseigne-moi davantage sur Dieu. » Il témoigne qu'on puisse lui dire « Aide-moi, Seigneur, également à témoigner ce que tu as fait pour moi aux autres. » La personne du Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Que la vérité soit mon standard de vie. Que la vérité soit mon standard de vie. La personne du Saint-Esprit a inspiré l'Écriture et parle à travers elle. Parle-moi, Seigneur, à travers ta parole. Oui, tu peux me parler à travers un homme, tu peux me parler à travers une prédication, mais Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Révèle-moi les profondeurs de Dieu. Et deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne parce qu'il possède les attributs d'une personnalité. Il a une volonté qu'on puisse être comme Jésus. Non pour ma volonté, mais la tienne, la volonté de l'Esprit pour ma vie, et non pour ma volonté, pour l'Esprit. L'Esprit est doté d'une pensée. Révèle-moi tes pensées, Seigneur, les plus profondes. L'Esprit est doté de connaissances. Révèle-moi ce que tu connais à propos du Fils encore plus, à propos de Dieu encore plus, à propos du royaume à venir encore plus. L'Esprit est doté d'une langue. Oui, accorde-moi de parler en d'autres langues, à comprendre ton langage spirituel, à saisir ce que tu veux m'enseigner. Il est doté d'amour, que la marque que je laisse lorsque je fréquente des gens, ce soit le parfum de Christ, son amour. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Je vais le considérer comme une personne, le traiter comme une personne et communier avec lui comme avec une personne et non pas comme un outil, comme quelque chose d'utilitaire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que son Saint-Esprit vous remplisse. Si les musiciens voulaient vous avancer pour un chant, on va terminer là-dessus.